Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Et bah la bonne réponse, c'est vite vite, l'instant M va commencer. Il est 9h40 sur France Inter.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Mais ne spoiler.
Le spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
12e saison de la Grande Librairie sur France 5. C'est ça, François Bunel? 12e? Je me trompe pas. 12e. François Bunel est toujours là, un pied dans la rentrée littéraire. Alors, Yann Moix ou pas Yann Moix? Et le regard loin auprès des écrivains américains. Vous voulez savoir si la télé fait encore vendre des livres? Il n'en peut plus qu'on lui pose la question. Elle a surgi pourtant, cette interrogation, lorsqu'un auteur provoque, comme cette semaine, la surmédiatisation. Le scandale s'est révélé très mauvais pour les audiences. L'émission de Laurent Ruquier n'a pas décollé. Sera-t-il porteur pour les librairies? Plus généralement, de quoi nous parle-t-on lorsque sort un livre? Qu'est-ce que recherchent les médias dans la littérature? Et vous, François Bunel, qui trouvez-vous?
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour, donc, François Bunel.
Bonjour Sonia.
Soyez
bonjour
le bienvenu sur France Inter. La Grande Librairie commence demain soir. Amélie Nothomb, Cécile Coulon, Monica Sabolot, Julia Deck, quatre femmes et une cinquième que vous aimiez. Toni Morrison, prix Nobel de littérature, elle est morte cet été et vous allez la faire revivre demain soir sur France 5. On en parle dans quelques minutes. Un Xavier, une fenêtre, une toile, une porte, je suis très en forme, hein, c'est la rentrée.
Plein de mots.
La fenêtre de la porte par Xavier Delaporte et ses humeurs numériques. Vous nous parlez d'un hashtag ce matin qui a animé Twitter tout ce week-end. Les profs, on vous parle.
Ça c'est le nom du hashtag, mais avant je voudrais évoquer un souvenir personnel. Dans une ancienne vie, j'ai été prof et ai fait passer l'oral du bac français en lycée technique une année. Ça se déroulait dans une grande salle au fond de laquelle un prof faisait passer lui un oral d'histoire. Un après-midi où je m'ennuyais à écouter un élève qui s'en foutait manifestement, j'ai vu mon collègue historien se passionner pour son candidat. Le jeune homme avait manifestement beaucoup de choses à dire et à chaque question, il répondait longuement et avec entrain. Alors une fois nos deux oraux terminés, je suis allé voir mon collègue qui me raconte. Il me dit « ce type est génial ». Il a attiré comme sujet les démocraties populaires de 1945 à 1989. Bon, d'habitude, les techniques, ils galèrent. Et lui, il savait tout. Il répondait à toutes les questions que je lui posais. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là et il m'a expliqué. Il est super dyslexique depuis tout petit. Il a donc été orienté en technique, alors que ce qu'il aime, c'est la littérature et l'histoire. C'est vraiment tragique comment l'école peut faire des trucs pareils. Bon, je lui ai mis 20.
20.
Et tous les deux, donc, le prof d'histoire et moi, on a eu les yeux qui sont partis dans le vague. Quand est apparu vendredi le hashtag « Les profs, on vous parle » et que j'ai vu les discussions véhémentes qu'il suscitait, j'ai repensé à cette histoire. Ce hashtag, il a été lancé par une militante qui voulait interpeller le corps enseignant avec des témoignages d'élèves handicapés ou harcelés, parfois c'est les deux, n'ayant pas trouvé de soutien dans l'école. Le problème, c'est que la conversation a rapidement dévié. Les griefs contre les profs se sont élargis, du genre « c'est dégueulasse d'envoyer les timides au tableau ». Les profs se sont sentis visés, certains ont réagi de manière assez brusque, du genre « on n'est pas des psys, on n'est pas des assistantes sociales » et un hashtag a été créé, un hashtag concurrent. Il s'appelle « Les élèves, on vous parle ». D'autres sont venus au secours des enseignants sur le mode « C'est quoi cette génération de géniards qui ferait mieux de bosser ?» Ce qui a excité l'énervement des plus hostiles à l'école et tout ça a fait trop de bruit pour qu'on n'y entende plus quoi que ce soit. Que ce hashtag m'ait rappelé cette vieille histoire n'est pas anodin et illustre quelque chose, me semble-t-il, de notre modernité numérique. Le prof d'histoire et moi-même, on a vraiment été émus par cet élève et nos yeux dans le vague, on se sentait responsable pour l'institution qu'il avait mis dans cette situation. On pensait aussi à toutes les fois où par négligence, par manque de temps, par ignorance, on a peut-être nous aussi mis un élève dans cette situation. On aurait sans doute été prêt à l'admettre, mais si une foule était venue nous dire qu'on faisait mal notre travail, qu'on était mal intentionné, avec des arguments plus ou moins pertinents et des expériences très diverses, on se serait sans doute défendu et on aurait défendu notre institution, on aurait fait bloc et on aurait évité les douleurs de l'introspection. Ouais. Et c'est tout le problème de la conversation numérique. Elle articule très difficilement l'individuel et le collectif, le particulier et le général, surtout quand elle aborde des sujets comme l'école sur lequel tout le monde a une expérience à faire valoir. Chacun, dans la solitude de notre écran, quand on intervient dans ce type de controverse, nous avons un mal fou à ne pas nous sentir directement visés et à nous extraire de la position depuis laquelle nous parlons. Personnaliser les réactions et les prises de parole, c'est à la fois la beauté et la limite de ces grandes polémiques dont nous abreuvent les réseaux. Je ne suis pas sûr que ces discussions partent trop bordéliques et violentes de ces discussions et ne sortent quoi que ce soit, ni même qu'elles fassent changer d'avis quiconque. En revanche, elles ont valeur de signal. Ici, il y a peut-être un problème, il faut mieux s'en occuper, nous disent-elles. Recevoir le signal, c'est tout ce qu'en l'occurrence, on demande à l'éducation nationale.
Merci Xavier Delaporte. À réécouter sur franceinter.fr, Les yeux dans le vague.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Allez, on remonte le temps médiatique à samedi soir. Yann Moix interrogeait, entre autres, par Adèle Van Rett dans On n'est pas couché, un des rares moments de l'émission où l'on est revenu à son livre, figurez-vous.
La première chose que je voudrais dire, c'est que s'interroger sur la vérité en littérature, ça marche jamais. Pour la simple et bonne raison que si on avait accès à la vérité, il n'y aurait pas de littérature. On dirait la vérité. La littérature et l'écriture, eh bien, la tentative d'essayer de chercher quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc la question, de toute façon, elle ne fonctionne pas. De savoir est-ce que c'est vrai ou pas.
Sur la littérature et la vérité, mais
enfin, alors, justement, et là, je vais vous citer. Voilà, parce qu'il me semble que mon malaise par rapport au statut de votre discours, vous donnez la clé dans le livre. Et j'ai trouvé ça formidable. C'est qu'en fait, vous racontez comment vous avez voulu devenir écrivain. Cours élémentaire deuxième année, parce qu'on suit le déroulé de votre vie, si on parle un tout petit peu du livre, hein, tout le monde l'a pas lu, je pense. Je commençais cette année-là ma carrière de graphomane, de tout. Je faisais texte, je rapportais chaque épisode de ma vie pour le transformer en chimère. C'était un carnaval de mots. Là, vous nous donnez la clé. Ce que vous écrivez, le rapport à l'écriture, et de pouvoir former des chimères.
Le lecteur placé malgré lui en arbitre, en juge, vérité ou chimère, le lecteur depuis rattrapé par les révélations d'antisémitisme et d'acquaintance avec des négationnismes. Et vous, François Bunel, qui animez depuis 12... Non, vous ouvrez la 12e ouais. saison de La Grande Librairie sur France 5. Qu'est-ce qui vous intéresse dans un livre ?
La beauté, l'émotion. Le point de rencontre qui va vous arracher au quotidien, ce qu'a dit tout à l'heure Xavier Delaporte, est extraordinaire. Le moment où vous avez les yeux dans le vague et où vous rendez compte qu'il y a une injustice. La lecture, la littérature peut la réparer. Quand un garçon se passionne alors qu'on pour la lecture ou la littérature, quand on l'a orienté ailleurs, parce qu'il est dyslexique, parce qu'il vient d'une famille qui n'est pas comme il faut... La lecture, et seule la lecture, je crois, peut réparer cette injustice. Donc voilà ce qui m'intéresse, trouver ce point d'équilibre et le faire jaillir. Et puis, rappeler également que la lecture, mais c'est ce qui va vous rendre un peu moins malheureux. C'est ce qui vous offrira des armes pour affronter le réel tous les jours.
Après son passage chez Laurent Ruquier, puis sur France Culture le lendemain, dimanche, Yann Moix interrompt toute promotion de son livre, façon de dire qu'il n'accepte plus d'interview. Il annule donc son passage dans la grande librairie, si je comprends bien. Il ne sera pas votre invité.
Alors, j'avais invité Yann Moix parce que j'ai lu le livre et que je me suis dit, le livre pose des questions. Hein. Je voudrais rappeler juste une chose, c'est que moi, je suis journaliste. Je ne suis pas procureur. Je ne suis pas avocat de la défense. Je ne suis pas juge aux affaires familiales et moins encore à la 17e chambre. Ce qui m'intéresse, et je crois qu'on est vraiment dans le cœur du problème, aujourd'hui, on vit une époque marquée par la tyrannie de l'émotion, de l'immédiateté, du commentaire hâtif. Il faut à tout prix juger, alors qu'on ne connaît même pas les tenants et les aboutissants d'un problème. Suspendons un tout petit peu le jugement et posons les vraies questions. Mais toutes les questions, y compris celles qui fâchent, pas uniquement entre amis.
C'est-à-dire que quand Yann Moix ne vient plus chez Laura Adler comme il était prévu ce soir, il ne vient plus chez François Bunel, c'est-à-dire qu'il refuse finalement que d'autres que ceux qu'il a choisi lui posent des questions, c'est ça ?
C'est vous qui le dites, mais pensez-vous une demi-seconde, ma chère Sonia, que Laura Adler, que nous connaissons tous, nous qui écoutons France Inter, aurait posé les mêmes questions que celles qu'on vient d'entendre ? Moi, je crois pas. Je pense qu'effectivement, il y a d'autres questions à poser à Yann Moix. Je regrette qu'elles n'aient pas été posées. Yann Moix a décidé de rompre le débat, dont acte. C'est dommage. J'attends de lui, moi, maintenant, le grand livre qu'il saura faire. Et puis, on en reparlera. Voilà. Mais il est évident qu'Yann Moix n'est plus, pour moi, un invité comme un autre.
C'est ça. Et ça n'est plus un livre comme un autre.
Non.
Et ce ne sont plus des questions comme les autres.
On a parlé... vous savez, j'ai été frappé parce que, encore une fois, chacun fait comme il le veut son émission. Mais parlons des vraies choses. Pas de bande dessinée. C'est pas une bande dessinée dont il s'agit.
Vous voulez dire que samedi soir, quand Laurent Ruquier et ses acolytes ont évoqué les dessins d'Yann Moix publiés dans une publication au moment où il était étudiant, ils ont parlé de bande dessinée en effet.
Ouais, et là vous parlez de dessin. C'est pas des dessins. Un dessin, c'est les Schtroumpfs. Une caricature, c'est Harakiri. Et puis à côté, il y a 100 pages, enfin 96 pages de texte négationniste. révisionniste et antisémite.
Donc vous voulez dire qu'on était extrêmement complaisant à son égard
non,
samedi soir.
Non, ce que je dis, c'est que d'autres questions. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est d'autres questions auraient pu être posées. Mm-hmm. Elles ne l'ont pas été, elles ne le seront pas. Voilà. Maintenant, vous savez, Yann Moix, c'est pas la rentrée littéraire. Hein.
Eh ben
il y a plein d'autres livres et plein d'autres choses à faire.
Allons-y. Fonçons dans cette rentrée littéraire. Vous avez créé America, une revue qui demande aux écrivains de raconter la société américaine depuis l'élection de Trump. Et pourtant, vous n'avez pas fait de la Grande Librairie une émission de société racontée par les écrivains. Cette bascule me semble extrêmement intéressante. C'est-à-dire que vous réunissez dans vos plateaux d'écrivains des gens qui sont parfois, qui se rapprochent parfois par des thématiques, des thématiques de société. Bientôt les rapports hommes-femmes, vous allez inviter Jablonka, bientôt la famille, vous n'inviterez pas Yann Moix, vous parlerez de la famille autrement.
Rassurez-vous, il y a énormément de très très bons romans qui parlent de la famille
où
sans qu'on ait besoin d'Yann.
Où est la part de la question de société, où est la part de la question de littérature?
Alors, c'est très simple, la Grande Librairie est une émission faite pour défendre sur le service public l'idée de la littérature, l'idée du livre et de la lecture. Mm-hmm. C'est d'ailleurs plus une émission de lecture, vous savez, qu'une émission littéraire. J'essaye de poser des questions.
C'est intéressant. Une émission de lecture et une émission littéraire, ça n'est pas tout à fait la même chose?
Je crois pas. Je pense qu'une émission littéraire, c'est une émission qui a toute sa raison d'être, où des gens très intelligents qui savent déjà lire sont entre eux et se parlent. Une émission de lecture est une émission qui tente de remettre un peu de curiosité, d'émerveillement, de sens de la beauté et de susciter chez les gens qui sont pressurés par leur métier, par leur quotidien et les réseaux sociaux, de leur remettre en tête l'idée qu'ils ont le temps de lire. Et que cette lecture, même si c'est 5 minutes dans la journée, qui vont devenir 10 puis 1 heure, tout à coup, va leur ouvrir des portes dont ils n'ont même pas idée. Mmh. C'est ça le but de la Grande Librairie. On va vous faire aimer autre chose que l'immédiateté, autre chose que votre quotidien.
Bruno Patineau a été votre patron, ça a été un des grands patrons de France Télévisions à une époque. Il avait écrit un petit livre après son passage dans cette maison de l'audiovisuel public. Un petit livre qui était parfois plein de constats assez amers. Il disait « Les émissions culturelles rassemblent un public conquis d'avance. La Grande Librairie sur France 5, on connaît son public, essentiellement féminin, plutôt intellectuel, fidèle au rendez-vous, mais déjà lecteur et même déjà grand acheteur de livres. Ces programmes sont précieux, mais ils ne fédèrent pas comme pouvait le faire le Grand Échiquier. Ils ne permettent pas de créer chez le public de nouveaux intérêts. » Je me suis posé la question. Vous avez l'impression...
C'est l'avis de Bruno Patineau, le même qui dans son dernier livre, dit « Je me suis trompé quand je disais que Internet et les réseaux sociaux deviendraient quelque chose de formidable. » Donc les idées de M. Bruno Patineau en ce qui concerne la Grande Librairie sont les siennes. Je pense que ça ne correspond absolument ni à la réalité, ni à la réalité. Ouais. Mon cher Bruno, si tu nous écoutes, il va falloir se replonger un tout petit peu dans ce qu'est la Grande Librairie.
C'est-à-dire, c'est un règlement de compte. Vous avez l'impression de conquérir des lecteurs ou vous avez l'impression de vous adresser à un public qui lit déjà et non, dans la composition de vos plateaux, de les emmener à lire autre chose, ce qui est très différent.
Les deux, ma capitaine. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a, dans le public de la Grande Librairie, évidemment déjà conquis, ça c'est évident là-dessus, bien sûr. Et j'essaye de faire en sorte, et je crois que d'ailleurs la progression des audiences le montre.
Parce que vous glissez souvent des écrivains moins connus que vos têtes d'affiche, vous glissez
toujours
aussi des auteurs de bandes dessinées, de la vraie, cette fois-ci.
Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que je reçois Amélie Nothomb, hier Jean d'Ormesson, demain toujours effectivement des gens comme Patrick Modiano ou Dany Laferrière, qui sont les piliers de cette émission. Mm-hmm. C'est parce que je crois effectivement vous adressez à des gens qui les connaissent déjà, et juste à côté, vous mettez 3 ou 4 inconnus. Et là, d'abord, ces inconnus ne restent jamais très longtemps. Je rappelle que Leïla Slimani a fait sa première télé à la Grande Librairie avant qu'on ne la connaisse. Joël Dicker a fait sa première télé à la Grande Librairie. Puis la liste est très longue. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est de se dire quel vase communicant entre les gens qui sont déjà acquis à la lecture et à qui nous allons pouvoir faire découvrir autre chose. Et puis, vous savez, ceux qui se disent « mais en fait, c'est passionnant, je viens de voir des écrivains ». C'est pas des concepts, les écrivains, c'est pas des gens morts, ce sont des gens vivants. Il y a une création contemporaine, j'ai tout compris, ils ont les yeux qui brillent et ils me parlent de moi. Ils réussissent en une phrase à dire, à mettre des mots sur ce dont nous avons seulement l'intuition.
Et parfois, ils le réussissent en une phrase alors qu'ils sont morts et déjà morts. Vous avez plus de fois dans votre carrière rencontré et interviewé Toni Morrison, prix Nobel de littérature, que Yann Moix.
L'autre point est la question raciale. Vous savez, sous le double mandat d'Obama, beaucoup de blancs sentaient leur privilège de blanc, quoi que cela veuille dire, s'envoler en fumée. Chaque Européen qui est venu dans ce pays, qu'il soit italien ou français, ne devenait américain que parce qu'il était blanc. Dès lors, il était américain, car il se comparait aux Noirs.
Toni Morrison a été la première invitée de votre revue America, dont je viens de parler parce que je trouve que c'est un projet éditorial absolument passionnant. Je répète qu'il consiste à raconter l'Amérique de Trump à travers les écrivains. Et dans cette interview, elle disait quelque chose d'incroyable. Elle disait que, évidemment, écrire est un acte politique, ça c'est une tarte à la crème. Mais elle disait que lire était un acte politique pour elle. Elle disait qu'un enfant noir qui s'acharne à lire, c'était pour sa génération un acte d'agression vis-à-vis des Blancs.
Bien sûr. Et elle a fait beaucoup aux États-Unis pour remettre la lecture au sein du débat. Vous savez, quand Barack Obama a été élu, il faut se rappeler qu'il sortait du 9e district de Chicago, dans lequel l'une des raisons de sa popularité était précisément le fait qu'il avait ouvert des bibliothèques et qu'il avait permis que toute une littérature, pas seulement la littérature noire d'ailleurs, puisse être mise à disposition des plus jeunes. Et alors, vous voulez que je vous donne un scoop, Sonia de Villers? Parce que là, on parle de tout un tas de trucs, Yann Moix, la littérature, c'est vachement bien, mais il y a mieux. On lance, dès demain, dans la grande librairie, un grand concours national de lecture à voix haute à destination des jeunes.
À voix haute? Pourquoi à voix haute?
Parce que la lecture à voix haute, c'est ce qui vous fait tout à coup vous approprier un texte. C'est ce qui le rend plus beau. C'est ce qui vous permet d'être vous, l'actrice ou l'acteur, de ce que vous lisez, de ce que vous avez dans votre tête. J'adore les concours d'éloquence. J'ai participé récemment même à plusieurs jurys. Oui. Je trouve ça formidable. Le problème pour moi de l'éloquence seule, c'est que parfois, elle peut aussi favoriser la victoire. La lecture, il n'y a plus de victoire. La seule victoire, c'est sur vous-même. C'est la capacité que vous avez à vous affronter à un texte et à en découvrir les secrets et la beauté. Lisez Cyrano de Bergerac ou lisez John Fante.
Et vous allez
dans votre tête.
Filmer
oui,
vos concurrents
exactement.
Parce qu'il va falloir en plus affronter l'image, affronter la caméra.
Oui, on a eu cette idée-là avec les équipes de Delphine Ernotte et puis avec celle du ministère de l'Éducation. J'ai été voir Jean-Michel Blanquer, j'ai dit voilà, on pourrait faire ça. Et si toutes les semaines, on faisait un grand concours et qui se terminerait par un grand prime time, qui aura lieu donc
sur
à
France
la fin de l'année, sur France 5
sur
à la
France
fin
5.
De l'année, où nous allons faire lire les jeunes de la 6e à la terminale, tous les professeurs de lettres, de français, sont invités à y participer, à les aider, à leur donner leur
vous
technique,
leurs trucs. Vous allez revenir nous en parler. Moi,
mais
je voudrais dire
mais
encore
oui,
un petit
on
mot
parlait de la lecture tout à l'heure.
Sur
c'est
Toni
ça,
Morrison,
en fait.
Qui a été, comme vous dites, bibliothécaire, éditrice, écrivaine, romancière. J'aimerais qu'on dise un mot, en fait, sur ces écrivains américains. Parce que la semaine prochaine...
Avec joie.
Mais parce que j'ai l'impression que toutes les semaines, vous en injectiez un petit peu
oui,
dans les prochaines grandes librairies. Non, on va entendre Joyce Carol Oates, que vous avez filmé à Princeton. On va entendre Pete Fromm, que vous avez été rencontré chez lui. J'aimerais qu'on dise un mot sur ces écrivains américains qui meurent. Peter Matthewson, James Salter, Jim Harrison, Tom Wolfe, Philip Ross, Toni Morrison. Est-ce que vous avez l'impression d'enterrer en ce moment de vieux amis, François Bunel, parce que vous les avez tous filmés pour France 5 depuis 2012 dans vos carnets de route aux États-Unis. Est-ce que vous avez l'impression qu'est en train de s'éteindre le 20e siècle américain?
Ce sont les chaînes qui se laissent déraciner par un truc terrible sur lequel seule la littérature a pression, la mort. Et la chance que nous avons, nous, journalistes, c'est de leur donner la parole, de les filmer, de faire des archives radio. Et évidemment, effectivement, il y en a certains qui sont devenus des amis, mais peu importe, moi je suis pas là pour parler de moi. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a parmi les gens que vous avez cités, des gens qui, moi, m'ont sauvé la vie. Alors je sais, ça peut faire un peu emphatique quand on dit ça, mais sauf que c'est vrai. C'est vrai, quand vous lisez un livre qui parle de vous, en parlant des autres, quand vous lisez un livre qui vous donne de la force, qui vous redonne de l'énergie, qui vous permet de rêver, qui vous permet d'exister.
Et est-ce qu'il existe
ça vous sauve la vie. Et je crois,
l'équivalent de vos carnets de route sur les écrivains américains et d'Amérique aux États-Unis? Est-ce que vous vous êtes inspiré de formats américains et du travail de journalistes américains? Ou est-ce que c'est vous, lecteur français, finalement, qui avez créé ce regard-là?
Pour l'instant, c'est... Malheureusement, ça n'existe pas aux États-Unis. Et en même temps, ce que je fais, vous savez, c'est ce que faisaient les équipes de Tom Wolfe, Guy Thales et ce qu'on appelait le nouveau journaliste dans les années 70. Donc, j'invente rien. C'est-à-dire que moi, je me balade avec mon stylo, avec ma caméra. Je leur dis, je vais rester 3 jours chez vous et puis je fais un montage où ils me parlent
ça
de tout.
Ça veut dire que la télévision publique française a des archives et a une mémoire
qui
n'existe pas finalement aux États-Unis?
Elle n'existe plus aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays très complexe et qui aujourd'hui a un problème avec la lecture, un problème avec la littérature, surtout depuis 3 ans, ça il faut vraiment le dire aussi, on ne croit plus dans la vertu de l'école, et dans la vertu de l'école qu'on appelle aujourd'hui républicaine ici en France, on ne croit plus dans la vertu de la lecture. Or c'est quand même ça aussi qui permet aux gens de se retrouver,
Alors, demain soir, une émission de lecture. C'est la Grande Librairie qui réouvre ses portes sur France 5 avec Amélie Nothomb, Cécile Collomb, Monica Sabolo, Julia Deck et les mots de Toni Morrison. Vous reviendrez, François Bunel, nous parler de ce concours de lecture
avec plaisir,
à voix haute.
Sonia.